la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Un air de rien au PAB. Vous savez maintenant que le PAB, ça veut dire le musée Pierre-André Benoît à Alès. Et à nouveau une très belle exposition qui a commencé le 9 février, qui dure jusqu'au 19 mai 2024, qui s'intitule Pablo Picasso, Aldo Crommelinck, La route du cuivre, Mougins, 1963-1972, une histoire de gravure. Je suis avec la commissaire artistique de l'exposition, Estelle Bory, bonjour.
Bonjour.
J'allais dire Estelle Mougins, je vais reprendre. Estelle Bory, bonjour.
Bonjour.
J'ai eu le plaisir de suivre votre visite de presse ce matin et on sentait cet enthousiasme et votre connaissance puisqu'en fait vous êtes au Centre d'art de Mougins.
Exactement, qui est un centre d'art qui a ouvert l'année dernière au mois de juillet et dans lequel on essaye de faire des propositions en fait assez cohérentes. Et là, comme il y avait le cinquantenaire, de la mort de Pablo Picasso, on voulait aborder les choses d'une manière intéressante et pas seulement basée sur la figure de Picasso, mais sur une collaboration avec un maître graveur, Aldo Crommelinck, qui est venu vivre à Mougins, en fait, entre 1962 et 1972.
Alors, je vous ai posé la question parce qu'il connaissait Picasso, parce qu'il pensait que ça serait une émulation absolument extraordinaire. Et la route du cuivre, l'exposition s'intitule ainsi, entre le mas en fait de Picasso et l'atelier d'Aldo Crommelinck. C'est ça, la route du cuivre, quelques kilomètres qui faisait à mobilette.
Tout à fait, puisque Picasso habitait au mas de Notre-Dame de Vie, qui est située au-dessus d'une chapelle. Et Aldo Crommelinck avait, lui, un atelier dans le village rue du Badier. Et il faisait
des
allers-retours incessants, puisque autant Picasso, il apportait les plaques à Picasso qui étaient préparées, Picasso intervenait dessus, et après il retournait dans l'atelier pour préparer les planches et montrer les tirages à Picasso.
Alors ce qui est étonnant dans cette exposition, je précise qu'elle n'a pas été créée par le PAB, hein, c'est une exposition itinérante, mais qu'elle se justifie tout à fait puisque PAB était un graveur, imprimeur, donc ça justifie. Et puis il y a quelques années, il y a eu une exposition des gravures de Picasso, donc voilà pourquoi il y a Aldo Crommelinck. Alors le nom de Picasso est très attractif, va attirer certainement. Parce que Aldo Crommelinck, vous l'avez dit à la fin de la visite, mais moi j'incite nos auditeurs à aller voir sa biographie tout de suite, parce qu'en fait il est très connu cet Aldo Crommelinck.
Il est très connu en fait aux États-Unis, puisque par le milieu américain, puisque par la suite, et après cette collaboration avec Picasso, il a eu l'occasion d'aller vivre aux États-Unis et il a collaboré avec une grande galerie, la Pace Gallery, qui lui a aménagé un bureau et tout le contexte de travail. Il a collaboré avec des artistes importants.
Oui, j'ai vu la liste. C'est
notamment c'est Richard Hamilton, Jim Tine.
Mais en France, il a collaboré aussi avec les grands noms de la peinture.
Et en France, avec des grands noms de la peinture, évidemment, et des artistes aussi de l'école de Paris, ou même avec une figure importante comme celle de Miro.
En fait, moi j'ai l'impression que cette exposition, c'est une sorte, je ne vais pas dire réhabilitation, puisque vous venez de dire qu'il est connu, mais une mise en avant, puisque vous l'avez expliqué, il y a son frère, enfin ses deux frères, qui ont peut-être pris le dessus. Les questions d'héritage, de publicité, etc. Donc c'est un homme dont il faut voir la photo. Je trouve qu'elle est
très emblématique.
Un très bel homme. On sent qu'il est un peu introverti. Hein. C'est pas un homme très très expansif. J'aime beaucoup cette photo avec sa loupe et son outil pour rectifier. On sent un décalage de génération, parce qu'il faut dire que c'est les 12 dernières années de la vie de Picasso. Donc c'est un homme vieillissant. D'ailleurs, il y a un panneau, l'atelier du vieux peintre. Hein, donc,
voilà. C'est un thème récurrent chez
Picasso. C'est un thème récurrent. Donc, très riche cette exposition. Je ne sais pas si vous savez le nombre exact de gravures que
63.
Bravo. Dont deux en couleur, c'est les deux premières.
Les deux seules.
Et c'est vrai qu'on croirait que c'est de la peinture, de l'aquarelle. Hein,
de l'aquarelle, parce qu'il y a certaines techniques de gravure qui se rapprochent de l'aquarelle, tout simplement parce qu'on travaille au pinceau.
Eh oui. Alors, il y a aussi un panneau qui explique toutes les formes de gravure. Alors, vous êtes commissaire artistique, il y a une commissaire scientifique qui a écrit sa thèse sur Aldo Conrad, qui s'appelle, je cherche le nom,
Emmanuel Hénard,
voilà, qui est venu le soir du vernissage et qui est à même de répondre à toutes les questions
techniques. Voilà, de manière d'un point de vue plus technique, puisque c'est l'un des intérêts de l'exposition aussi. On voit que Picasso, sur une même planche, travaillait avec différentes techniques, que ce soit l'aquateinte, l'eau forte.
Au sucre, j'ai appris le mot.
Aquateinte au sucre, qui donne un côté comme ça, ce qu'elle appelle un peu corrosif dans les effets de la gravure. Et ça prouve comme ça cette nécessité d'Aldo Cromlech de pouvoir travailler sur les planches, parce que c'est un travail colossal.
Alors, il y a toute une série aussi de photos où on voit quelques étapes, et on voit que ça demande vraiment beaucoup de concentration et que Picasso n'a jamais été un technicien. Lui, ça a été la personne qui grave, en fait.
Alors, il avait, c'est ce que dit Aldo Cromlech, je nuance un petit peu, Picasso a pratiqué la gravure pendant 70 ans, et Aldo Cromlech, parce que là aussi, encore une fois, c'est un homme vieillissant, donc il y avait moins cette possibilité de se charger d'un certain nombre d'étapes, mais Picasso maîtrisait parfaitement toutes les techniques de la gravure. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait même être transgressif avec certaines d'entre elles.
Oui, on le voit dans certaines façons de faire le coup d'incision. Enfin, je ne sais pas si on dit des incisions, mais on sent son énergie. Quoi qu'on dise de Picasso, bon, il a appris ça comme ça. Et puis, il avait un génie, quoi. Il a fait des choses que personne d'autre n'a faites. Et même si on n'est pas technicienne de la gravure, on se rend compte dans les résultats qu'il y a des techniques totalement différentes.
Il y a des techniques très différentes, et encore une fois, qu'il cumule sur une même planche, à travers différents états.
Et la dernière salle, les 13 états, c'est fascinant de voir la gravure de début, et puis la gravure de fin.
Oui.
Et vous savez sur combien de temps il a fait ça ? C'est 13 états, c'est plusieurs semaines, plusieurs...
Non, c'est sur quelques jours, puisqu'ils avaient un travail de collaboration sur certaines personnes, encore une fois, sur certaines périodes, encore une fois. Et je suis revenue là sur le fait qu'en 68, puisqu'il y avait mai 68,
oui,
et que Picasso était un peu isolé, il y a vraiment eu une collaboration qui était très intensive pendant cette période-là.
Oui, il y a beaucoup de gravures de 68.
Et voilà.
Oui, ça fait sur quelques jours, quoi.
Et il pouvait venir le matin, présenter, revenir dans son atelier, travailler dessus, revenir le soir, puisque c'est vrai que c'est l'un des intérêts des 13 états, c'est qu'il a travaillé 13 fois sur la même planche.
Ouais. Et il y a des planches de plusieurs tailles, mais la moyenne, c'est tout de même assez grand.
Ah oui, parce qu'on se rend compte là que sur ces trajets même d'Aldo Cromlech jusqu'au mât de Notre-Dame.
Il avait son carton à dessin.
C'était quand même assez.
On l'imagine très bien, parce qu'il avait l'air très grand, donc sur sa petite mobilette. Alors, c'est un homme. Est-ce qu'il a laissé des écrits ? Vous avez lu ce matin, vous l'avez très bien lu d'ailleurs, cette phrase où il dit. On dînait, puis après, Picasso se mettait à travailler. Sur la table du salon, donc ça n'avait pas du tout un côté formel, c'était vraiment, pas à l'improvisme, mais enfin bon, c'était, je cherche le mot, je ne le trouve pas, dans une sorte d'intimité, dans une sorte de vie quotidienne. Donc, cette phrase, c'est tiré de quoi ? De mémoire ? D'un journal ? D'un agenda ?
C'est des entretiens qu'Aldo Cromlech a menés dans différents catalogues d'exposition, où il revenait justement sur cette collaboration avec Picasso. Mmh. Et c'est vrai que dans l'image, en tout cas, qu'il donne de cette collaboration, il y a toujours cette idée, il met toujours en avant le fait que Picasso, encore une fois, maîtrisait, et même, je crois qu'il va même à dire que c'est l'artiste qu'il a connu qui maîtrisait le mieux les techniques de la gravure.
Pourtant, il en a connu des grands graveurs.
Après, il en a connu, mais malgré tout, vraiment, je pense qu'il y avait...
Mais tout ce que touchait Picasso, moi je pense à ses poteries, je pense à Valoris, je pense à tout ce qu'il faisait. Il y a une patte, quoi, il y a le coup de génie, quoi.
Et après, Aldo Kromlin dit que quand même, il y avait un attachement réel de Picasso à la gravure. Et après, il donne un exemple, alors qu'il faut prendre, bon, peut-être le nuançant, mais il disait que autant la céramique, quand il devait donner une pièce, il n'hésitait pas, autant des gravures,
Il
ça ne rentrait
revenait.
pas du tout dans cette volonté. De pouvoir donner des multiples, voilà, pour montrer sa grande générosité, comme il a pu le faire sur la période où il habitait à Valoris.
Donc Aldo Kromlin, on le découvre, on le redécouvre. Il a vécu de 1931 à 2008. Il y a eu des rétrospectives. Et sa fille bon, en parle bien sûr très bien. Et on lui a demandé de choisir une musique qu'elle pense aurait, enfin, aimait son père. Donc nous écoutons. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Estelle Bory, merci encore,
je vous en
pour
prie.
nous commenter ou nous guider dans cette exposition, donc qui dure, je l'ai déjà dit, attendez, je remets les lunettes, jusqu'au 19 mai 2024. Vous pouvez téléphoner au musée PAB, vous pouvez aller sur le site, il y a des visites guidées, il y a des conférences, il y a des ateliers, et donc, comment dire, entrer un peu dans ce monde de la gravure. Et on va en venir après les deux en couleur, qui s'appellent les fumeurs, On va en venir, puisque c'est le sens que vous avez donné à la visite ce matin, entre les fumeurs en couleur et puis les 13 états à la fin. On parcourt donc 12 années, en fait, de la vie d'Aldo Cromlinck. Là aussi, je ne sais plus, j'ai commencé ma phrase et je l'ai perdue.
oui, voilà. Le parcours de l'exposition.
On va revenir, voilà. On va revenir aux différents thèmes. Puisque il y a toujours un lien avec la littérature, hein, je pense à la Célestine par exemple, avec les peintres, hein, il y a Degas, il y a Rembrandt,
Raphaël.
Il faut savoir que Aldo connaissait, avait un père qui était dramaturge.
Tout à fait. Donc Ferdinand Cromlinck, je crois qu'on l'a pas dit, hein, c'est une famille qui est d'origine belge. Mmh. Et Ferdinand Cromlinck était un dramaturge assez connu qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, enfin je trouve que le titre est assez amusant, Le Cocu Magnifique, et que Picasso avait illustré.
D'accord, donc il y avait tout de même des petites connivences, des façons de même de se retrouver. Et est-ce qu'on peut parler vraiment d'amitié entre les deux hommes ?
Je pense que c'est vraiment une collaboration en termes professionnels. Même s'il y a des images qui ont circulé, et notamment où on voit Picasso et Aldo à la plage,
il y a une certaine distance.
C'est pas une distance, mais il y a vraiment un rapport de collaboration dans le travail et autour de la gravure. Mmh. Alors que avec le frère d'Aldo, Piero, qui était plus jeune qu'Aldo. Là, qui n'est pas resté à Mougins, lui venait seulement pendant les vacances et c'est normal, il avait une vie familiale. Mmh. Mais Picasso
avait plus
cette volonté de mettre en avant finalement Piero, puisque tout simplement aussi il l'a représenté en peinture.
Alors qu'Aldo, non.
Et en disant, en plus avec un élément biographique, que Piero Cromlinck lui faisait penser au niveau du visage à son père.
Ah d'accord, ok.
Donc est-ce que c'est ça?
Mais... Oui, c'est un peu c'est les atomes crochus.
Et d'un autre côté, il se reposait seulement sur Aldo, sur les questions techniques. Ouais. Mais Aldo reste un petit peu l'homme de l'ombre.
Ouais.
Et on l'a vu avec une personnalité comme ça, plus réservée.
Oui, ça se voit sur les photos, mais ce qui fait aussi son talent, parce que je pense qu'il faut beaucoup d'intériorisation dans ce métier.
C'est un métier qui demande une exigence incroyable.
C'est pour ça que la photo avec la loupe, là, moi, je la trouve extraordinaire.
Et pour avoir discuté avec une amie d'Aldo Cromlinck, la personne justement qui a réalisé cette série de photos, elle me disait que c'était un personnage fascinant, mais qui avait une exigence incroyable sur son travail, ce qui pouvait être dur justement parce que...
Mais que Picasso appréciait certainement, mais pas pour la vie en fait amicale, quoi. Puisqu'on imagine un Picasso extraverti, qui prend toute la place.
Et là, on est sur une collaboration vraiment... Artistique.
Mais vous avez dit ce matin dans la visite, et ça m'a interpellée, il y a vraiment l'art et la vie en même temps, hein, qui sont mêlés, mais il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, et j'ai un peu digressé, la littérature, la peinture, il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de femmes nues, beaucoup de sexe, beaucoup de voyeurs. On retrouve un peu les obsessions de Picasso tout de même.
On retrouve les obsessions de Picasso, mais vraiment d'une manière beaucoup plus importante qu'auparavant, puisqu'on voit aussi...
C'est la fin de sa vie aussi.
Quelque part aussi, et c'est de l'intérêt de l'exposition, c'est qu'on voit aussi un artiste vieillissant et peut-être aussi une part de frustration. Et la gravure, on a évoqué le terme du journal de bord, est un moyen pour lui d'évacuer comme ça une certaine forme d'angoisse, de pouvoir revenir sur toute cette référence. J'ai évoqué pendant la visite le fait qu'on est dans une mise en abîme permanente, en fait, à travers ces gravures. Vous l'avez évoqué, de la littérature, de l'histoire, de la peinture, des thèmes qui sont chers à Picasso, et notamment le thème du cirque.
On retrouve l'antiquité aussi, les chevaux, les masques.
Et tout ça permet à Picasso de vraiment s'exprimer sans avoir de filtre. Il le dit.
Aucune censure.
Aucune censure.
Bon, la censure la rattrape maintenant, 50 ans après sa mort.
Exactement.
Parce qu'il y a un monsieur dans la visite, ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'il me dit, ou c'est vous qui l'avez dit, les femmes ne sont pas très avantagées, mais les hommes non plus. Hein. Il n'y a que des satires, il n'y a que des faux.
C'est vrai. Les seuls qui échappent quand même à cette vision-là, c'est les enfants.
Oui.
Donc quand ils représentent des enfants, même quand ils sont dans ce rapport à l'observation du spectacle, on sent qu'ils préservent quelque part la représentation des enfants. Mais sinon, sur les représentations des hommes, il y a énormément de représentations masculines avec des hommes bedonnants, avec...
Puis la violence, hein, les viols...
Ça fait partie également... Ouais. Alors c'est vrai qu'on l'a évoqué ce matin et c'est un sujet qui est... un peu sensible, puisque on est partagé entre le fait de se dire qu'il y a finalement un rapport à l'histoire de l'art, puisque des scènes de viol, quand on s'intéresse à la mythologie...
Ben, il y en a des dizaines.
Voilà, et dans l'histoire, et du coup dans l'histoire de la peinture également. Mais là, peut-être que ce qui est amplifié, c'est la manière très crue dont il représente ces scènes. Parce que autant il avait fait une série, la suite Volard, dans les années 30, où on gardait ces thématiques, mais les traits étaient beaucoup, beaucoup plus voluptueux et avec un aspect esthétique
un peu plus sensuel, plus
attendu. Alors que
là, c'est vraiment très cru,
voilà,
très violent.
Et pour moi, c'est tout l'intérêt quand même de voir la production d'un artiste qui pouvait s'exprimer totalement librement avec toute cette mise en avant aussi d'une certaine forme, quelque part, de frustration.
Ouais. C'est intéressant de se dire un homme vieillissant, un homme frustré, un homme qui n'a plus la même vitalité.
Ah ben c'est évident.
Qui a été quitté tout de même. Je vois qu'il y a une conférence sur Françoise Gillot, tout de même la seule femme qui a dit non à Picasso.
Oui, bon, après il est avec Jacqueline, hein, il a rebondi.
Oui,
quand
mais
même.
Enfin, on sait que c'est compliqué, Picasso et les femmes. Donc c'est intéressant. Et la gravure. Est-ce qu'au moment où il faisait des gravures à Mougins, il peignait en même temps ou il faisait que de
il
la gravure
peignait, il a toujours, de toute façon, il le dit, hein, il a toujours, toujours peint. Donc toutes les pratiques, il continuait. Et avec la gravure, c'est ce qu'on évoquait par des périodes très intenses. Au départ, quand Aldo Cromlech s'est installé à Mougins, il a dû attendre quand même une petite période que Picasso se réintéresse. À la gravure. Après, on l'a évoqué, le moment vraiment très important.
C'est 68.
C'est mai 68, parce qu'il y a eu cette possibilité d'Aldo Cromlech de pouvoir collaborer, parce qu'il y avait beaucoup moins de visites. Et ça a permis vraiment à Picasso de pouvoir investir pleinement la gravure.
Puis, comme vous le dites, la plaque de cuivre sur les genoux.
On voit, il y a une photo dans l'exposition qui exprime très, très clairement la manière dont ça se faisait au quotidien.
Plus de facilité, enfin pour Picasso, parce que je pense que c'est pas évident tout de même. Et je le disais tout à l'heure, il y a certains traits qui sont très violents.
Il
fait ça de façon spontanée, de façon.
Oui, et par moments, alors là, c'est aussi un élément que raconte Emmanuel Hénard, par moments, même il blesse la plaque de cuivre.
Il la traverse.
Donc, alors après, avec toutes les interprétations psychanalytiques que l'on pourrait
faire. Oui, j'allais employer le mot.
Je ne me lancerai pas là-dedans.
Oui, à l'heure, quand il parlait de frustration, vous parliez de frustration d'un homme âgé, d'un homme qui sait que la mort approche.
Et pour Picasso, c'était
une thérapie.
Était, toujours une angoisse, mais terrible. Enfin, on sait, hein.
Mais c'est bizarre parce qu'il aimait la tauromachie, il a vu des toréadors se faire encorner. La mort était assez familière tout de même.
Mais ça concernait les autres, pas lui.
Ouais. Ça n'aide pas à se préparer.
Ah non, la fin, et ça, bon, on le sait, la fin de vie de Picasso, Jacqueline Picasso, a dû vraiment vivre un moment, mais d'une grande violence. Il y avait vraiment un refus, je pense, d'accepter la mort.
Enfin, je ne sais pas s'il y a une personne qui l'accepte, mais tout
au moins
qui...
Non, mais Picasso, je pense particulièrement, c'était quelque chose de totalement obsédant. Il était...
On n'a plus que 3 minutes.
Super, merci. Alors, c'était un artiste très superstitieux.
Donc, la mort. Donc... Raphaël. Oui, vous avez une visite guidée, vraiment. Vous
la... Ah oui, c'est vrai.
Merci à vous, hein, si je n'ai pas le temps après, mais c'est très, très intéressant. Alors, on va faire la conclusion. Je ferai peut-être une petite virgule, j'en sais rien. J'ai mis quoi là ? J'ai mis la mort. Eh bien, merci Estelle Bory de nous avoir guidés. Je pense qu'il faut regarder... Il y a des séries, hein, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a des séries, il y a des thématiques... On a tendance à les regarder de loin, mais il faut s'approcher de très près.
Il faut s'approcher parce qu'il y a toujours un détail qui est même par moments amusant. Parce que je crois aussi que dans cette question de la gravure, et on l'avait évoqué, et peut-être aussi par le fait que Picasso s'intéressait également à la bande dessinée.
Et oui, ça m'a étonnée, avec, ça, je savais
avec,
pas.
Oui, avec des personnages qui sont quelque part amusants. Et pour mener l'expérience, il y a toujours...
Oui, il faut regarder de près.
Il y a toujours
il
un élément.
Il est mis dans les angles, hein, souvent, moi, j'ai trouvé. Pas vrai, pas toujours, non.
Alors, c'est vrai que le lien entre beaucoup d'œuvres, c'est la figure du voyeur qui est de profil sur le côté. Ça, c'est récurrent. Je pense que 95% des gravures, il y a toujours la représentation d'un personnage qui est en train de regarder la scène.
Picasso lui-même.
C'est peut-être Picasso lui-même. On va pas revenir aussi, parce qu'il y a la question des autoportraits aussi est présent, hein, de l'artiste dans son atelier. Encore une fois, il reprend les grandes thématiques de l'histoire de l'art et il les rejoue avec cette notion du journal de bord.
Bien, merci à vous. Donc, je redis à nos auditeurs, vous pouvez voir l'exposition Pablo Picasso Aldo Cromelinck, La route du cuivre, une histoire de gravure du 9 février au 19 mai 2024. Il y a beaucoup de visites guidées, il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci à vous. Et vous avez, je pense que Carolisane, la conservatrice du musée de Pape, a dit que Picasso avait fait 3000 gravures dans sa vie et qu'il y en avait 750 qui étaient faites avec Aldo Cromelinck. Donc c'est énorme.
Oui, et puis en plus, on est quand même sur la question d'un art où on est dans le multiple.
Oui. Mais merci à vous et bonne visite, parce que je sais que vous enchaînez une autre visite.
Exactement.
Merci à vous.
C'est moi. À bientôt. Au revoir. Alliance Plus.